quelles propositions artistiques accueillir et quel regard porter sur la transition écologique? Ces questions ont conduit à la sélection de 7 projets dans des disciplines artistiques complémentaires. Ils abordent culture et médias, alimentation et agriculture, société ouverte et migration, égalité femmes-hommes, environnement et biodiversité, transition numérique et coopération Sud-Nord. Lougui est un duo d'artistes qui questionne le lieu entre l'art, le politique et le réel. Il développe une installation construite à partir de rencontres de paysannes et de paysans, piliers d'une société juste et solidaire. Retrouvez l'enregistrement de la rencontre du 4 février à Liège dans une lecture politique de l'agriculture. Dans quelle direction souhaitons-nous aller et avec quelle perspective d'avenir? Avec Marie-Hélène Lefebvre, chargée de mobilisation à Fianne Belgique, Amandine Lejeune, membre de Occupons le terrain à Liège, Henri Loest, agriculteur exproprié de ses terres et membre du collectif contre l'extension du zoning des Hauts-Sarres à Liège, François Sonnet, maraîcher à Juppy, membre de la ceinture Aliments Terre liégeoise. Ce débat est animé par Sébastien Kennes de Rencontres et Continents.
Les 4 personnes qui vont nous accompagner, elles se présenteront mieux que moi. Je vais juste les nommer et un peu à quel titre elles sont là. Mais dans votre exercice de prise de parole, il y aura notamment de dire d'où vous parlez, quoi. Et qu'est-ce que vous faites et pourquoi vous avez accepté d'être avec nous. On va démarrer avec Marie-Hélène, qui travaille donc pour une organisation qui s'appelle FIAN et qui est investie dans notamment les questions d'accès à la terre et la défense des droits des paysannes et des paysans ici et ailleurs, j'entends dans d'autres continents. Henri, qui est agriculteur depuis 2-3 générations dans ta famille, vous avez notamment, je dis vous, mais le vous c'est familial, été confronté à des expropriations notamment sur les Hauts-Sarres, donc pas très loin, enfin dans la région ici, et donc avoir une expérience de ça veut dire quoi se faire exproprier et comment rendre un usage à la terre. Il y a François, on se connaît aussi notamment via ses implications dans la ceinture alimentaire de Liège, mais qui est aussi maraîcher, paysan et investi dans les modèles plus, enfin c'est des modèles de circuit court, de community support agriculture, appelez ça des groupes d'achat, appelez ça des gazap, bref tu nous en parleras peut-être un petit peu. On terminera par Amandine, qui portera la casquette aujourd'hui plus de Occupons le terrain, à partir de son implication dans un collectif plutôt liégeois, qui s'appelle Stop Alibaba, et qui lutte notamment contre l'extension de l'aéroport de Liège. Voilà, et peut-être d'assumer aussi que cette discussion, parce que, pour être honnête avec tout le monde, je connais 3 des intervenants, puisqu'on a l'habitude de travailler et de lutter ensemble, à part Henri, mais donc je suis ravi aussi d'avoir des personnes que je ne connais pas. C'est ça qui fait la richesse de l'échange. Voilà, je vais commencer par toi, Marie-Hélène. Voilà, pour nous peut te présenter, dresser un peu un topo des enjeux en région wallonne.
Seb a déjà commencé à me présenter. Effectivement, moi, je suis chargée de mobilisation chez FIAN, donc une ONG qui milite pour le droit à l'alimentation et à la nutrition à travers le monde. Et donc, à l'intérieur de ce qu'on appelle le droit à l'alimentation, ce qui est super important pour nous, c'est le droit des personnes qui cultivent la terre, donc des paysans, paysannes, des agriculteurs, agricultrices, et la protection des ressources naturelles, dont la terre, puisque c'est les premières qui vont servir à produire notre nourriture. Pour nous, la question de la terre, elle est très fort liée à la question des droits humains, parce que ce n'est pas juste je sais pas, une orientation politique de se dire on va protéger les terres agricoles plutôt que de faire autre chose. C'est normalement, il y a des textes de droit international qui parlent de la terre et du droit à la terre comme faisant partie du droit des paysans. Et donc, pour nous, c'est important de le rappeler et de rappeler aussi à des événements, même s'il n'y a pas énormément de membres du Parti Écolo ici, mais en tout cas, on espère qu'ils écouteront le podcast, que la Belgique a été plein de fois pointée du doigt, en fait, pour ses manquements, justement, au respect des droits des paysans, le fait qu'il y a de plus en plus de petits agriculteurs qui disparaissent en Belgique et que l'accès à la terre est un vrai enjeu chez nous. Mais en fait, ça nous a déjà été reproché, in fine, par les instances onusienne. Et donc, on pense que c'est toujours un bon truc à rappeler, puisque la terre, c'est un peu la base de toute transition des systèmes alimentaires vers quelque chose de plus durable, et que sans terre, on ne peut pas construire, en tout cas, ce qu'on voudrait comme système alimentaire avec les paysans et avec les mangeurs.
Est-ce que tu peux quand même commencer à nous dresser, à partir du travail que que ce soit FIAN ou les organisations avec qui vous travaillez, font sur l'accès à la terre ou la défense de la terre. Un peu, ça en est où globalement, en Belgique et en Wallonie en particulier? Est-ce qu'il y a des vraies menaces? Est-ce que c'est régulé? Jusqu'où c'est régulé? Jusqu'où c'est pas régulé? Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui, que ce soit tant l'accès à la terre, soit la défense des terres qui sont déjà des terres cultivables, agricoles?
Yes. En 8 minutes, c'est un vrai défi, pour tout vous dire, mais je vais essayer peut-être de rebondir sur 4 ou 5 points les plus importants. Et après, en fait, vous aurez plein d'exemples avec les autres intervenants qui sont là, de concrètement, sur le terrain, comment on peut défendre des terres agricoles et quels sont les endroits où elles sont attaquées. On a beaucoup parlé l'année passée d'accaparement des terres ou de choses qui rendent difficile l'accès à la terre pour les paysans et paysannes. Et ici, moi, j'ai envie de vous parler d'artificialisation des terres, d'usage non nourricier de la terre, de régulation du marché foncier et de fausses solutions climatiques. Ça a l'air un peu savant, mais vous allez voir, en fait, c'est facile à comprendre. Un des premiers enjeux, en tout cas en Belgique, pour préserver les terres agricoles, c'est éviter que ces terres soient artificialisées, c'est-à-dire qu'on vienne les couvrir de béton et qu'on arrête de faire de l'agriculture dessus pour faire tout un tas d'autres choses. En Belgique, il y a deux causes principales d'artificialisation. C'est on va venir construire du logement un peu partout et faire de l'étalement urbain, et donc utiliser finalement des terres agricoles pour construire des grands complexes immobiliers. Même si on sait qu'on doit loger des gens et qu'on doit trouver des manières de le faire, en général, ce n'est pas fait de la manière la plus intelligente, et on grignote petit à petit des terres agricoles pour se loger. Et il y a toute la question des zonings industriels, puisqu'en fait, c'est bien pratique, une terre agricole, c'est relativement facile à bétonner et c'est facile de monter un zoning dessus. Donc c'est les deux causes principales, en tout cas en Wallonie, d'artificialisation des terres. Et en 32 ans, on a augmenté de 35% la surface artificialisée. Donc c'est plus ou moins l'équivalent de 3 terrains de foot par jour qui partent de l'agriculture vers d'autres usages. Donc ça, je crois que c'est un premier enjeu. Et il y a des réformes qui sont annoncées au niveau wallon de la manière dont on va développer notre territoire. Mais c'est des réformes qui vont prendre du temps. On a annoncé un objectif stop béton en 2050, donc d'arrêter de bétonner les terres. Mais en fait, d'ici à 2050, il y a un gros enjeu. Il y a plein de terres qui ne sont pas protégées par des statuts spécifiques qui empêchent de construire dessus. Et donc, il y a plus de 50 000 hectares qui pourraient en fait encore légalement être bétonnés, alors qu'elles sont aujourd'hui utilisées par des agriculteurs et des agricultrices. La deuxième chose, c'est les usages concurrentiels à leur usage nourricier. C'est-à-dire, dans le code wallon de l'agriculture, le premier article, il dit, mais en fait, ce qui est important pour les terres agricoles wallonnes, c'est de les utiliser pour nourrir la population. Et en fait, on voit que dans les faits, les terres agricoles, elles ne sont pas énormément utilisées pour nourrir la population. Il y a plein d'autres choses qui sont faites dessus. Et c'est assez interpellant. On va faire des sapins de Noël sur des terres qui pourraient être utilisées pour cultiver de la nourriture. On va mettre des chevaux en prairie. Il me semble qu'en Belgique, il y a genre un cheval pour 17 personnes. Donc ça veut dire que la pression... Il y a même la question de mettre des panneaux solaires maintenant qui se posent sur des terres agricoles en se disant, tiens, c'est des espaces bien pratiques, on pourrait mettre des champs de photovoltaïque parce que ça amène des énergies renouvelables. Mais en fait, est-ce que c'est le meilleur endroit pour le mettre et est-ce qu'on ne devrait pas chercher d'autres espaces pour le faire? Et dans ces autres usages, il y a aussi des choses qu'on appelle les fausses solutions climatiques. Donc on va parler des agrocarburants, donc c'est des énergies qui sont faites à partir normalement de matières agricoles, à part qu'on va cultiver des champs entiers qui pourraient être utilisés pour nous nourrir, pour simplement nourrir les moteurs des voitures. Il y a 32% des céréales qu'on cultive en Belgique qui partent dans les voitures, ce qui est, à notre sens, pas vraiment génial. Et il y a d'autres choses, mais je ne vais peut-être pas les détailler parce que je n'aurai pas le temps ici, mais il y a la biométhanisation qui commence à être un sujet d'importance, donc prendre les déchets de l'agriculture et les utiliser pour faire de l'énergie. Normalement, c'est sympa, à part qu'il n'y a pas de régulation et que, de nouveau, on a une grosse part de ce qui est mis dans les biométhaniseurs qui est en fait de la nourriture propre à notre consommation.
De là où tu te situes, comment est-ce que tu vois le fait qu'il y a un mouvement qui tente de défendre ou d'apporter des solutions très concrètes, pratiques, aux premiers concernés, donc les agriculteurs et agricultrices? Est-ce que ça prend ou est-ce qu'en fait c'est vraiment anecdotique et on est quelques pelés, trois tendus dans des salles comme ici à se préoccuper de ces enjeux-là? Ou est-ce que vraiment il y a une prise de conscience aujourd'hui, à la fois côté pouvoir public, mais aussi côté population, que c'est un enjeu majeur, quoi?
J'ai envie de vous dire qu'il y a une prise de conscience et que ça devient un enjeu majeur. Maintenant, on voit que structurellement, on a des luttes, on a des gens qui se mobilisent autour de luttes pour défendre les terres agricoles, pour les préserver, pour être solidaires avec les agriculteurs. Mais en fait, aujourd'hui, si on veut éviter que ces terres soient bétonnées ou que même elles soient achetées par des gens qui ne qui ne sont pas agriculteurs, ben il faut des mesures qui sont structurelles et donc il faut des politiques publiques plus générales parce qu'on ne peut pas construire une lutte pour chaque hectare de terre qui est menacée. En fait, c'est super souhaitable qu'il y en ait une pour chaque hectare de terre menacée, mais il y a beaucoup trop d'endroits où des terres agricoles se font grignoter et où les gens n'ont même pas le temps de rentrer en lutte parce que ben, il y a déjà le temps de produire de la nourriture sur cette terre et sur toutes les autres terres. En plus de devoir aller les défendre et créer des mouvements, c'est pas évident. Et peut-être, moi, ce que j'aimerais bien rajouter, donc quand même dans la quatrième grosse menace sur nos terres agricoles, c'est la question du marché foncier en Belgique. Donc, comment vous pouvez acheter ou vendre des terres, parce que c'est un marché sur lequel il n'y a pas de régulation. Et donc, il y a pas mal de gens qui vont venir spéculer sur les terres, se dire, ben, moi, je peux acheter des terres parce que je sais que je vais en tirer une plus-value. Mais donc, ils font monter le prix de la terre. Il y a plein d'autres acteurs, comme des gros acteurs de l'agro-business ou même des chaînes de supermarchés qui vont venir acheter des terres agricoles en se disant, ben, nous, ça nous intéresse de le faire. Mais donc, ils ont à la fois plein de moyens. Ça met une pression à la hausse sur le prix des terres qui deviennent difficiles à acheter pour les agriculteurs et les agricultrices. On a genre les terres les deuxièmes les plus chères d'Europe après les Pays-Bas. Il y a eu une augmentation de 28% du prix de la terre sur les 4 dernières années. Donc c'est énorme. Maintenant, on est en moyenne sur 35 000 euros à l'hectare et on sait tous que c'est souvent largement plus que ça avec ce qui passe en sous-main et selon les régions dans lesquelles on va acheter des terres. Et donc, il y a vraiment un enjeu à ce qu'on puisse avoir des institutions qui régulent le prix de la terre et à qui on va laisser acheter une terre, c'est-à-dire à des gens qui vont venir la cultiver et qui vont l'utiliser pour nous nourrir et pas pour d'autres choses. Voilà.
Effectivement, il y avait l'exemple récemment, c'est Colruyt qui a commencé à s'intéresser à acheter des terres et ça a posé question de manière très légitime, notamment une série de syndicats agricoles, ce qui permet de faire la transition avec Henri.
En deux mots, c'est la FUGIA, elle s'excuse de ne pas pouvoir être là. Mais on les avait
contactés. Oui, donc notamment, ok, donc vous aviez contacté la FUGIA pour être présent, ils n'ont pas pu être là. Et c'est notamment la FUGIA qui avait réagi, nous a un peu contactés pour dire, tiens, est-ce qu'on ferait quelque chose par rapport à ce cas de Colruyt. Merci pour un peu ce topo un peu court certes, mais on y reviendra dans les discussions Marie-Hélène. Je vais passer la parole à Henri pour te représenter peut-être mieux que ce que je l'ai fait et alors peut-être dire en quoi est-ce que toi tu es ou tu as été ou ta famille a été confrontée justement à un accaparement, à une confiscation des terres, voilà, de raconter un peu ton histoire, ton expérience, de ce que tu ressors de ça et peut-être ça en est où pour vous aujourd'hui aussi dans votre ferme quoi.
Je m'appelle Henri Loès, je suis agriculteur et issu d'une famille d'agriculteurs depuis les temps immémoriaux, je vais dire ça comme ça. La famille historique est installée sur une ferme à Millemeur. Et donc aujourd'hui, je vais m'exprimer, pas seulement à titre personnel, mais aussi en remerciement et avec l'aide de mes deux confrères agriculteurs, en remerciement aussi aux 3000 personnes qui nous ont soutenus dans notre combat contre l'extension des Haussards. Alors, avant de vous parler un peu de tout ça, je pensais qu'il était bon de rappeler un peu ce que c'était l'agriculture wallonne, très rapidement, parce que j'ai entendu des données que je partage d'ailleurs, sans problème, et il y aura peut-être un peu de redites, mais l'agriculture wallonne, c'est 12 700 exploitations, dont 50% d'élevage bovin. La surface moyenne d'une ferme aujourd'hui en Wallonie, c'est 58 hectares. La superficie agricole totale en Wallonie, c'est 740 000 hectares. Donc c'est pratiquement la moitié du territoire wallon. À ce titre-là, je vais dire, les agriculteurs doivent être écoutés et respectés. On occupe quand même la moitié du territoire wallon. Donc en agriculture, sur les 12 000 exploitations, il y a 22 000 personnes actives, plus des saisonniers pour la cueillette des fruits, etc. Plus tous les emplois en cascade, parce qu'on dit toujours, l'agriculture, c'est quand même pas grand monde, ils occupent beaucoup de territoire, mais on n'emploie pas grand monde. Mais vous mettez les vétérinaires, les marchands d'aliments, les marchands de tracteurs, de machines, tout ce qui gravite autour de l'agriculture, c'est énorme. Alors le revenu moyen d'un agriculteur, là, on entre dans le dur, c'est 65% seulement du revenu comparable. Le revenu moyen d'un agriculteur, c'est 65% du salaire brut des travailleurs non agricoles. Donc ça pose déjà question aussi. Alors le pôle agroalimentaire wallon, que bien ou pas bien, on alimente, les usines, etc. On a parlé de Bio-Once, par exemple, ça c'est clair. Mais les sucreries, les producteurs de légumes, etc. Donc c'est quand même 15% de l'emploi industriel en Wallonie, ce qui n'est pas rien, c'est 21 000 emplois. et ça génère 1 milliard d'euros. Bon, c'est des chiffres qui donnent un peu le tournis, mais enfin voilà, ils doivent être cités. Alors, je suis d'accord avec toi quand tu dis, et ça, on entre évidemment dans notre combat, la Wallonie perd 4 hectares par jour, hein, donc c'est bien clair, 4 hectares par jour de bonnes terres, c'est énorme. Ce qui signifie 1500 hectares par an. Ça a été beaucoup plus avant, à la création des Hossards, par exemple, du zoning industriel, au moment où, dans les années 60-70, on a commencé à faire des zonings un peu partout. Donc aujourd'hui, c'est 25 exploitations par an qui doivent fermer automatiquement. 1500 hectares, c'est 25 agriculteurs qui sont mis à la porte automatiquement. Alors, au niveau de l'installation des jeunes, il n'y a pas beaucoup de jeunes. La moyenne d'âge des agriculteurs aujourd'hui, c'est 58 ans. Et donc, il y a un jeune qui s'installe pour 3 départs à la retraite. Ça pose question aussi. Il y a beaucoup de fils d'agriculteurs qui ne sont même pas intéressés par la reprise de l'exploitation de leur père. Alors, parlons un peu des Hossards, puisque c'est là-dessus que, avec nos camarades agriculteurs et aussi un groupe de citoyens, il faut dire que le collectif, je veux dire, qu'on appelait les irréductibles, hein, on s'est autoproclamés les irréductibles parce que on n'a pas voulu se laisser marcher sur la tête par tous les gens qui voulaient s'accaparer les terres agricoles. Le zoning des Hossards a été créé dans les années 60. C'est le plus grand zoning de Wallonie. Il y a 8 à 9 000 emplois et donc 300 entreprises. Alors, il y a plus ou moins un peu plus que 10 ans, il y a eu 2 procédures d'agrandissement. Donc, il y avait une partie de la zone des Hossards. Il restait 60 hectares à urbaniser, dont le plan de secteur avait déjà été changé. Et puis, il y avait toute une autre partie qui était toujours une partie agricole, sur laquelle l'intercommunal SPI avait un regard très jaloux et voulait finalement viabiliser toute une grande campagne qui était et qui est toujours de la zone agricole. Là, heureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a eu la mobilisation citoyenne avec les agriculteurs. On a eu donc 3000 réclamations des agriculteurs, des riverains, des citoyens et même des entreprises déjà implantées dans le zoning qui étaient à nos côtés et qui ne voulaient pas d'agrandissement parce qu'il y avait déjà des gros problèmes au niveau, par exemple, de la circulation, de l'entretien des routes, de l'entretien général du zoning. Alors, les communes ont joué un rôle important aussi. On est allé évidemment démarcher les communes parce que il y a 2 communes qui étaient concernées. La commune de Herstal, sur laquelle l'extension des Hossards était finalement pas énorme et qui avait tout intérêt parce que qui dit extension dit création d'emplois, croirait-on. Mais aujourd'hui, si vous passez sur les autoroutes, il y a énormément de halls logistiques. Donc ça ne crée pas d'emplois et ça occupe énormément de territoire. Et la commune de Houpey, qui était vraiment beaucoup plus concernée, mais la commune de Houpey, dans un premier temps, elle n'avait pas dit non. De dire ça, ils voyaient un petit peu les emplois, etc. Puis après, ils ont dit catégoriquement non, pour la bonne et simple raison qu'ils se sont rendus compte d'abord que leurs citoyens étaient totalement opposés et qu'ils allaient devoir participer à l'aménagement des routes, etc., et que ça allait coûter 5 millions d'euros à la commune. Et donc, comme ils n'ont pas les finances, ils ont dit catégoriquement non. Donc, franchement, ça nous a quand même bien aidé. Alors, pour votre gouverne, je vais vous lire le genre de lettres que l'on recevait sur le territoire qui était agricole. C'est une lettre qui provient de la commune de Herstal et qui dit ceci, envoyée à mes parents. Nous portons à votre connaissance qu'en vertu du décret wallon du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques, l'ASPI, donc, qui est l'intercommunale liégeoise d'aménagement des zonings, se dispose à demander un arrêté ministériel pour cause d'utilité publique des biens dont vous êtes propriétaire, tels que repris au tableau d'emprise, etc. Donc en fait, et là je vais dire, on entre vraiment dans les problèmes, c'est à ce moment-là que vous prenez conscience que vous êtes tout petit, tu l'as dit tout à l'heure, on se sent seul, hein, on est démuni parce que bon, notre métier c'est agriculteur et c'est pas d'aller à des réunions et défendre nos trucs et de jouer les avocats. Et donc on reçoit une lettre comme ça. L'ASPI par exemple était venu faire des photos de nos terres, Elle publiait ses photos dans son journal en disant, voilà, aux industriels, voilà, regardez la belle campagne, si vous mettez le prix, si ça vous intéresse, elle est à vous. C'est complètement surréaliste, hein. Mais c'était un peu comme ça que ça se passait. Donc on a dû se battre, on est allé, je vais dire, avec nos confrères ici, on a fait, à mon avis, sûrement une centaine de réunions, on est allé voir tous les ministres de l'époque, les communes, les journalistes, la RTBF, RTC, enfin tout le monde s'est mobilisé. On n'a pas lâché le morceau, et je pense que l'ASPI, qui est l'intercommunale, s'est rendu compte que voilà, on avait du répondant. Donc, nous, qu'est-ce qu'on a dit, finalement ? C'est complètement débile de vouloir viabiliser des bonnes terres agricoles, alors que, par exemple, en région liégeoise, ce sont des chiffres qui ont été donnés par le monde politique, il y a 1000 hectares de friches industrielles en région liégeoise et 10 000 hectares en Wallonie. Donc, commençons d'abord par réhabiliter ces friches industrielles. Je ne parle même pas de l'expropriation des 240 hectares à Bierzé, à Stop Alibaba, là, on est bien d'accord, hein, c'est le même combat. Alors, pourquoi est-ce que l'ASPI préférait s'attaquer aux terres vierges ? Et là, il y a des législations à changer et qui ont changé. D'abord, il y a des difficultés administratives. Par exemple, quand il y a des friches industrielles qui ont fait l'objet d'une expropriation, par exemple, dans un zoning, si vous avez une usine qui est vide et qui avait été installée dans un zoning, donc la terre en dessous avait déjà fait l'objet d'une expropriation, eh bien, on ne peut pas réexproprier deux fois. Donc c'est vraiment complètement débile. Il n'y a aucune autorité qui a droit d'exproprier deux fois un territoire. Et donc, on ne pouvait pas foutre les gens dehors en disant, voilà, on vous exproprie parce que vous aviez fait une usine, ça a marché pendant 25 ans, et maintenant, on vous met à la porte, comme nous, on nous met à la porte, les agriculteurs. Et donc, voilà. Donc ça, c'était vraiment une difficulté administrative. Je pense que le gouvernement y a pensé. Alors, ces nouveaux propriétaires donc, qui étaient dans les usines, eh bien, ils sont, pour employer le terme, expugnables. Ça veut dire qu'on ne peut pas les foutre dehors, quoi. Ça, c'est quand même incroyable. Nous, on peut nous foutre dehors, et eux, pas. Ça, c'est vraiment incroyable. Alors, il y a un deuxième risque aussi, c'est de les gens qui voulaient éventuellement racheter des friches industrielles, eh bien, ils doivent assainir. Et ça, le coût de l'assainissement est énorme. On en parlera tout à l'heure. Alors, il y a aussi un manque de considération pour l'agriculture dans l'imaginaire des décideurs. On s'en est vraiment rendu compte. Hein, je pense que les mentalités sont en train de changer, mais dans le chef de certains hommes politiques ou de certaines intercommunales, eh bien, dans leur imaginaire, la ressource foncière est abondante et on peut vraiment en disposer à l'envi, quoi. C'est incroyable. Alors, il y a eu également ce qui s'est passé, c'est une consommation effrénée de terrain dans les années 70, 80, 90, hein, où on s'est rendu compte que c'était vraiment sur une typologie extensive, hein, une urbanisation, je vais dire, une urbanisation incroyable, mais dispendieuse. Ça signifie, par exemple, que si vous allez en Hollande, les gens mettent leur bureau au-dessus de l'usine ici, allez voir dans les Hauts-de-Seine, on fait une grosse usine, puis on fait des bureaux à côté, et puis une grosse pelouse devant, quoi. Donc finalement, on consomme du territoire et de façon qui n'est pas parcimonieuse. Alors aussi, il faut le dire, si même ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais le rôle des intercommunales. Les intercommunales vivent, je pense, mais enfin, ils doivent changer leur fusil d'épaule maintenant, de l'expropriation et du commerce des terrains. Et donc, ils faisaient exproprier ou ils avaient une autorité pour mettre les agriculteurs dehors. Ils récupéraient des terrains au prix agricole. Hein, on mettait des entrepreneurs dedans et puis après, on les vend au prix industriel. Donc ça leur faisait des belles rentrées. Et à l'ASPI, il y avait une centaine de personnes qui étaient employées, quasi rien qu'à ça, quoi. Ils faisaient commerce de terre, quoi, finalement. Alors, il y a également aussi le rôle de certaines sociétés immobilières qui voyaient qu'il y avait des chancres industriels, qui achetaient, qui réhabilitaient, et puis qui faisaient de la rétention en disant ben, « il manque des terrains, donc le prix monte, il manque des usines, le prix monte, ben, je fais encore un peu de rétention tant que ça monte, et puis alors je vends quand c'est bien cher, quoi. » Donc ça, on est allé rencontrer un promoteur immobilier d'usine spécialisée là-dedans. Le gars, il était
C'était vraiment... Il nous a reçus dans un palace et il se sentait vraiment maître de la situation. Alors, les solutions que nous proposons, d'abord, c'est utiliser les friches industrielles. Ça paraît maintenant une évidence pour tout le monde. Je pense que le gouvernement actuel va mettre le focus sur les friches industrielles. Et puis alors, il y a une proposition aussi qui n'émane pas des agriculteurs, mais de découpler aujourd'hui l'utilisation d'un bâtiment et sa propriété. Donc, comme ça, vous utilisez le bâtiment quand vous ne l'utilisez plus, OK, l'État ou la région qui en est propriétaire, va vite le réhabiliter et le relouer à quelqu'un d'autre, plutôt que de dire, bah, écoutez, on va réexproprier quelqu'un pour réétendre le zoning et laisser les champs industriels. Alors, la dernière chose, la conclusion, les mécanismes qui ont prévalu pour s'accaparer les terres, finalement, il y a eu 3 cas qui nous ont concernés. Le premier cas, donc les 60 hectares, ils avaient fait l'objet d'un changement de plan de secteur dans les années 60-70. Et puis, il y a eu un recours au Conseil d'État qui a bloqué ces 60 hectares. Et puis, ce recours a été annulé et ces hectares étaient constructibles, je veux dire ça comme ça. Donc, quand au plan de secteur, des terrains sont mis comme zone industrielle, on n'a plus, c'est trop tard pour intervenir. On ne sait plus faire marche arrière. La deuxième procédure, c'était la procédure d'extrême urgence qui avait été mise en route là, pour le reste de la campagne. Et pour cause d'utilité publique, donc le gouvernement wallon et le ministre et les intercommunales pouvaient faire changer les plans de secteur très rapidement, sur quelques mois, et donc s'accaparer et s'approprier des terres qui étaient agricoles et qui deviennent tout à coup, viabilisables, je vais dire ça comme ça. Et puis, depuis lors, je l'ai appris en me renseignant un petit peu, depuis le 22/11/2018, ça c'est quand même une bonne nouvelle, il y a un nouveau décret qui est entré en application et c'est une procédure unique maintenant pour l'expropriation qui est applicable à toutes les expropriations. J'ai ici la procédure, ça fait 10 pages à 4 avec toute une série de points à respecter, avec des recours possibles, l'avis des communes, l'avis des citoyens, l'avis de ceci et ça. Et donc finalement, on est dans une nouvelle procédure. Normalement, on ne se fera plus avoir comme le point numéro 2, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure.
Merci pour cette explication, parce que c'est important d'avoir vraiment un point de vue du terrain et voir comment sur le long terme aussi, finalement, ce truc-là s'opère. Peut-être dernière question, puis on passe la parole à François, mais réponse courte. Tu as cité au début l'importance d'avoir eu des soutiens, à la fois de citoyens, mais tu as même dit même des entreprises qui étaient sur le zoning. Est-ce que ça a été... il y avait d'abord votre détermination, les 300 réunions que tu as évoquées, que vous avez fait à gauche, à droite.
300 entreprises et 3000 citoyens avec nous.
Non, 300 entreprises, je confonds mes chiffres. Mais donc, les dizaines de réunions, et jusqu'où est-ce que ça a été déterminant, ce soutien-là, quoi, de pas vous sentir seul, parce que comme tu dis, on dit parfois, oui, ils sont petits, ils pèsent pas beaucoup.
Le soutien, on s'est retrouvé un jour à une réunion au Château d'Oupay, pour nous expliquer l'expropriation, et que, allez, on était une dizaine d'agriculteurs concernés, on partait battus. On allait à la réunion pour voir, et c'est les riverains qui nous ont dit, mais non, ne vendez pas vos terres, on ne vend pas. Et c'est quand on a senti le soutien de la population derrière qu'on a commencé alors à se défendre.
Oui, la question, est-ce que vous avez pu garder vos terres ?
Les 60 hectares sont toujours en suspens. Pour le reste, l'idée générale, c'était de certains hommes politiques, il ne faut pas s'en cacher, c'était depuis Eupen jusqu'à Namur, ils nous l'ont dit, c'était tout le long de l'autoroute faire des zonings industriels. Ils y sont pratiquement parvenus. Si vous voulez, on démarre de Eupen, et puis on arrive au zoning des Plaines, et puis à Soumagne, et puis au Haussard, et puis à Bierzet. Et à l'heure, Bierzet, après Bierzet, il y a Flémal. Et puis Flémal, et puis ça compte. Villers-sous-Bouillet, oui, énorme. Hein.
Ok, merci. Alors, François, complétez ce que j'ai dit de toi. Ton rapport à l'accès à la terre, je ne pense pas que tu es, mais je me trompe peut-être, hérité d'une ferme familiale, machin. Tu dis ?
Elle vient d'être vendue il y a quelques mois.
Et voilà, c'est intéressant de montrer que qu'on soit nouveau, entre guillemets, ou nouvelle dans la profession, ou qu'on hérite de fermes ou de terres depuis un certain temps, on est confronté au même problème, peut-être dans des dimensions différentes, peut-être avec des ressources différentes. Et donc, parle-nous un peu de ton parcours et en quoi est-ce que cette question est encore importante pour toi aujourd'hui, dans ce que tu fais, quoi.
Donc je m'appelle François Sonnet, je suis maraîcher, je vais réexpliquer le projet au Champ des Possibles ici à Jupy. Donc c'est un projet d'agriculture soutenu par la communauté où les gens viennent cueillir sur le champ directement via paiement d'un abonnement annuel. C'est une agriculture qui se veut transparente où on est justement connecté avec ses clients, ses mangeurs. Les gens connaissent mon salaire et ils versent en fonction de leurs revenus un abonnement annuel, etc. Donc c'est une agriculture très différente. Et je rebondis justement sur ce que tu viens de dire avec le soutien à la société civile. Moi, ici, c'est vrai que je connais les gens qui m'achètent mes produits. Et c'est bien souvent le problème des agriculteurs maintenant, c'est qu'on n'est plus en contact avec la population, les gens autour de son champ, etc. Et ça me faisait penser à cette histoire que nous, en face du champ, on a 2 hectares agricoles qui étaient en vente. Effectivement, le prix était de 35 000 euros, on était dans la moyenne. Et on a rassemblé les 70 000 euros en 3-4 semaines. Justement grâce à ce réseau autour du champ, à ces mangeurs, aux gens qui sont impliqués, et ça montre l'importance d'être connecté. Enfin, je sais que ce n'est pas possible pour toutes les fermes, maintenant il y a un système industriel qui s'est mis en place, mais il y a ce lien qu'on a perdu qui est très important, et ça me fait plaisir d'entendre que ça vous a servi aussi, que les citoyens vous soutiennent. Ça fait 7 ans que je suis maraîcher, et j'habite à Liège, je suis originaire de Dahlem, et j'avais envie de faire mon projet ici autour de la ville, vu que j'habite ici en ville, enfin voilà, j'ai mes activités en ville, et c'est posé la question après ma formation de trouver un terrain, ce qui n'est pas évident, effectivement, déjà le prix du terrain est cher, les terrains ne sont pas disponibles partout en abondance, donc j'ai commencé à faire le tour de la ville, j'ai été trouver la ville de Liège, le CPS de Liège à l'époque. J'ai essayé de taper aux portes des fabriques d'églises aussi, donc les gens qu'on sait qu'ils ont encore quelques terres souvent autour des villes. Et puis j'ai essayé de trouver un propriétaire de terrain, et via une réunion terre en vue, j'ai trouvé quelqu'un qui avait un terrain, etc., à mettre à disposition. Je ne suis pas propriétaire de mon terrain. C'est pas un problème pour moi, ça peut paraître une forme d'insécurité aussi quand on n'est pas propriétaire, est-ce que je comprends, quand on se lance dans le métier, ben on aime bien d'être propriétaire de son terrain, de voir à long terme, etc. Mais le prix des terres fait qu'actuellement, en maraîchage, vous parliez du revenu, mais en maraîchage, on est en dessous du seuil de pauvreté. Souvent, on gagne 600-700 euros par mois quand on commence, donc en moyenne. Mes collègues ne gagnent pas leur vie correctement, ce n'est pas le but non plus, mais vous imaginez bien que s'il faut acheter le terrain à 35 000 en début d'activité, il faut quand même arriver, soit on a des sous de côté, soit on arrive à rembourser le terrain avec son activité, ce qui n'est pas évident. Donc il y a beaucoup de gens comme moi qui se mettent en location ou en bail à ferme. Enfin voilà, ici c'est accommodage chez moi, donc on essaie de trouver des solutions qui peuvent paraître précaires, effectivement. Donc la difficulté s'est posée à moi, et on a ici aussi Léopold qui cherche aussi un terrain depuis un petit moment, qui n'en trouve pas facilement non plus, c'est pas évident du tout. Donc moi je suis peut-être une exception qui a réussi à trouver un terrain tout près de chez moi aussi, mais moi les solutions, il n'y en a pas 10 000, je pense que les terrains, une partie des terrains, sans verser dans le communisme pur et dur, mais doivent rester au niveau public et doivent rester en agricole surtout. Je pense qu'on arrive à un point de non-retour, là où les gens ne vont plus savoir s'installer à cause de la rareté des terrains et du prix des terrains. Il y aurait peut-être aussi moyen de trouver des mécanismes, je pense, à des agriculteurs existants et favoriser un peu l'avenue peut-être d'un maraîcher sur une partie des hectares qu'ont les agriculteurs. Ils ont quand même 80 hectares, c'est quand même beaucoup. Donc un maraîcher sur un hectare, vraiment essayer de favoriser aussi ce genre de mécanisme. Donc la cohabitation, etc., il faut aussi penser à tout, et c'est pas toujours évident, mais je pense aussi que ça permettrait d'avoir un échange intergénérationnel entre un fermier un peu plus âgé aussi et une nouvelle personne qui veut s'installer, et un échange aussi au niveau savoir, enfin voilà, moi je pense qu'il y a des mécanismes à trouver à ce niveau-là, mais je pense que l'État l'État peut avoir des dérives aussi, hein, mais je pense que si on ne maintient pas, on ne garantit pas d'avoir des terrains agricoles qui sont maintenus dans le giron public avec des prix qui n'explosent pas, je pense que la spéculation va continuer. Moi, j'ai entendu, mes oreilles ont sifflé quand j'ai entendu qu'Albert Frère, à l'époque, investissait dans la terre agricole. Je me suis dit, oula, on rentre dans un truc, ça va juste être les plus puissants et les riches qui vont pouvoir s'offrir ces terres agricoles, et les petits maraîchers comme moi ou d'autres personnes ne pourront plus du tout avoir accès à la terre, et ça va devenir de la spéculation, effectivement. Donc ça, j'ai trouvé ça très très grave, ça fait déjà un moment que c'est en route, et à part avoir des mécanismes au niveau de l'État qui empêchent ça, je n'ai pas 10 000 solutions non plus. Moi, j'ai beaucoup milité aussi, quand j'ai travaillé à la ceinture alimentaire déjà à ce petit moment, j'ai beaucoup milité, je sais que ça fait souvent tiquer, mais pour les régies agricoles communales, donc c'est vraiment... c'est les communes, c'est les villes qui reproduisent, qui salarient des agriculteurs ou des maraîchers pour reproduire pour les collectivités. Je ne dis pas que c'est pour venir faire concurrence dans le domaine privé, mais pour les collectivités, on salarie quelqu'un qui produit directement en direct pour la ville ou la commune et on a de la nourriture de qualité qui arrive dans les cantines. On sait que c'est un enjeu au niveau des cantines, de tout ce qui est collectivité, d'avoir de la nourriture de qualité. Je pense que celui qui a fait un tour à l'hôpital récemment, je ne sais pas si vous avez l'occasion de goûter les repas dans les maisons entrepôt, mais la qualité est quand même souvent très très basse. Et je pense que c'est vraiment un enjeu à ce niveau-là d'essayer de changer la donne. Que d'un autre côté, on a des gens qui cherchent des terrains qui n'en ont pas, on a des gens qui se lancent dans des métiers qui sont super importants et qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer un système où on salarierait, on aurait une garantie pour le producteur ? Je sais que c'est une idée qui peut choquer mes collègues agriculteurs des fois, mais j'ai beau tourner, essayer de trouver des solutions, pour moi, il n'y en a pas 10 000. Donc voilà, je pense que c'est, oui, il faut avoir des terres. Terre en vue le fait, c'est vrai que le terrain en face du champ, on l'a racheté avec terre en vue. Donc il y a une SBL que certains connaissent ici, mais qui rachète les terres agricoles pour les mettre à disposition d'agriculteurs et éviter cette spéculation et les maintenir également en agroécologie, donc avec des pratiques respectueuses de la terre. Maintenant, ça se fait via des parts de coopérateurs. Et voilà, c'est, à un moment donné, le système va aussi plafonner, à mon avis, on n'aura plus de personnes qui vont mettre de l'argent, mais je trouve que ça, c'est vraiment un terrain qui va rester agricole et qui va permettre à des personnes aussi de se lancer modestement sur un hectare. Voilà les quelques pistes de solutions que je vois.
Typiquement, je vais te relancer, mais par exemple, est-ce que vous connaissez Terre en Vue ? Ouais, vous aussi. Adrien, toi, tu connais aussi, enfin, qui est aussi agriculteur, peut-être que tu pourras prendre la parole par la suite. Et des initiatives justement comme Terre en Vue, tu as l'impression qu'ils existent. Je crois que ça va faire 10 ans que Terre en Vue existe.
Ouais. 15 ans, même, je pense.
Tu as l'impression, un peu plus même, peut-être, dans ces eaux-là.
Ils fêtent leurs 15 ans.
Tu as l'impression que c'est, bon, alors, c'est un outil. Mais est-ce qu'en fait, par rapport aux enjeux, quand on entendait les chiffres que nous disait Henri, par rapport aux enjeux de confiscation des terres agricoles, des rapports de force qui sont en cours, je fais caricature parce que je fais partie de ces mouvements qui soutiennent Terre en Vue, est-ce que ce n'est pas anecdotique ? Et si oui, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter, il faut continuer. Mais qu'est-ce qui manque d'autre ? Alors tu dis qu'il faut les pouvoirs publics, il faut un truc, mais voilà, un peu ton avis sur ces initiatives comme Terre en Vue, qui existent aussi au niveau plus local. Hein. Chez Caliège, il y a aussi des tentatives de faire ça de manière un peu différente, mais... Je veux dire, ils sont 14, quoi. C'est 14 personnes qui bossent aujourd'hui. Ils étaient 9 il y a 2 ans. Ils ont un peu d'argent en plus parce que les pouvoirs publics sont un peu plus en faveur de ce genre de trucs. Mais ça reste 14 personnes pour... je ne sais pas citer les chiffres que tu as donnés, mais...
Ah, on reste super impuissant face à Colruyt et aux grands groupes. Il faut de la génération. Moi, je pense qu'ils ont le mérite d'exister, de sensibiliser les personnes aux enjeux autour des terres agricoles. Hein. Je pense que c'est des terrains nourriciers. C'est un enjeu pour le futur, pour moi. Je dis toujours, les villes, les CPS n'ont pas intérêt à vendre leur terrain. Je crois que ça va encore valoir plus tard, de produire la nourriture, d'avoir un terrain où on peut produire en direct, en circuit court, la nourriture. C'est une valeur, ce sera une valeur refuge pour moi. Mais ça a le mérite d'exister, de sensibiliser. Et voilà, ici, on est une vingtaine aussi, c'est du travail de fourmi. Mais moi, je pense qu'on pourrait imaginer un outil comme Terre en Vue, mais plus au niveau étatique. Maintenant, on est dans un libre marché aussi, il y a la concurrence. Et voilà, je dis que c'est pas évident, mais... Je ne vois pas d'autres solutions. Moi, si quelqu'un a d'autres solutions, je veux bien, mais sans tomber dans le communisme pur et dur et chacun un hectare de terrain, mais c'est garder les terrains agricoles en maintenant des pratiques respectueuses. Et à ce que quelqu'un, je ne sais pas, comme, je vais prendre l'exemple de Léopold, mais des Léopold, j'en croise une dizaine par an qui cherchent du terrain, qui n'en trouvent pas. Et qui, au final, aussi, c'est des personnes qui ont envie de se remettre les mains dans la terre, de réapprendre ce savoir, parce qu'on n'est plus beaucoup ici en Wallonie. On est 0,4% d'actifs agricoles à Wallonie. C'est les chiffres d'il y a 3-4 ans, je crois qu'on est encore un peu moins. Donc pour moi, il y a vraiment un enjeu aussi que des gens restent dans ce giron agricole, des gens qui sont capables de travailler la terre et qui n'ont pas de terre aussi. Donc on les perd. C'est de nouveau des agriculteurs qu'on perd. Donc moi, vraiment un enjeu d'avoir des terrains accessibles pour qu'ils souhaitent aussi des terrains à test, etc., mais des terrains aussi sur le long terme.
Alors je sens que ça va partir en débat, c'est bien, je regarde le timing. Il y a encore Amandine qui doit parler. Emma, je voulais réagir, mais méga court. Et j'avais encore une question pour toi, donc ça fait méga court. Question pour toi, et puis on passe à Amandine, sinon mes collègues vont me taper, quoi.
Oui, mais je voulais rebondir sur ce que tu disais, parce que, notamment sur la question des collectivités publiques, donc soit la région Wallonne, soit tout ce qui est CPS, fabrique des liges, etc., quand tu mets ensemble toutes les terres qui sont possédées par ces collectivités, tu as plus de, je pense, 56 000 hectares de terres en Belgique qui pourraient être mises à disposition de gens qui voudraient se lancer en agriculture et qui pourraient aussi favoriser des gens qui ont des projets, qui ont envie de tester une forme d'agriculture qui est plus durable. Donc, nous, c'était vraiment un truc qu'on identifiait, en tout cas comme un levier qui était super intéressant, pour nourrir les collectivités publiques. Pour faire court aussi, je pense que c'est toi qui l'as mentionné au tout début, que d'ici une dizaine d'années, plus de la moitié des agriculteurs actifs auront l'âge de la retraite. Donc on a en fait 10 ans pour installer des nouveaux agriculteurs, des nouvelles agricultrices, nouveaux paysans et paysannes, parce que dans 10 ans, en fait, on n'a plus grand monde pour nous produire notre nourriture. Et ça, c'est, je pense, en tout cas, un vrai levier qu'on peut utiliser.
En écoutant Henri, puisque j'ai fait
la fin. Tout à fait. Je veux dire, des outils, il y en a, parce que le Code wallon de l'agriculture, qui a été initié par Carlo Di Antonio, avait prévu ce que tu viens de dire. Ceci dit, maintenant, je veux dire, c'est pas parce que les villes, les communes, les CPAS, etc., sont propriétaires de terres qu'il y a des agriculteurs qui sont tués aussi, évidemment. Hein. Mais ce que nous dénonçons, évidemment, c'est la rétention que certains agriculteurs font, y compris à la retraite. Ils sont à la retraite et ils font faire leurs terres par des industriels, etc. Ça c'est dénoncé par tout le monde et par tous les syndicats. Et alors, deuxièmement, ce n'est pas un système communiste, parce que la France y a pensé après-guerre. Elle a créé les SAFER. Les SAFER, donc la SAFER... Ça serait pas mal.
Peut-être tu peux dire pour tout le monde, je sais pas si tout le monde connaît les SAFER.
Une SAFER, donc SAFER, c'est Société d'aménagement foncier et d'établissement rural. Voilà ce que ça veut dire les SAFER. Donc c'est une gestion, je vais dire supra de terres agricoles. Et donc quand il y a des terres qui sont à vendre, la SAFER a toujours le pouvoir de préemption dessus. Et il peut y avoir des transactions entre deux agriculteurs, mais si par exemple il y a 20 hectares qui se libèrent dans un village et qu'il y a déjà un agriculteur qui en a 500, il va avoir des soucis avec la SAFER, je vais dire ça comme ça. La SAFER va plutôt privilégier l'agriculteur qui en a 50 sur le côté.
Réaction là-dessus, puis j'aurai une mini-question pour toi très rapide.
Je prends toujours des gants quand je parle de ça, parce qu'on me traite de communisme, on me parle de colcos, etc. tout de suite, donc je prends toujours des... Mais pour moi, oui, la SAFER est un bon exemple, même si la SAFER n'est pas parfaite non plus, mais il y a quand même quelqu'un qui dit à un moment donné, « Oh, toi, t'as déjà 600 hectares. » Stop, là, maintenant, parce que je pense qu'il faut des terrains, mais quand on devient trop grand, on n'a plus le temps non plus de s'occuper de tout ce qui est environnant, l'agroécologie, les haies, tout ça, enfin, on sait aussi les... Et puis la finalité de ça, c'est un seul agriculteur sur la province de Liège qui sera avec des drones, des robots, qui aura tous les terrains, il n'y aura plus d'ouvriers. Enfin, moi, c'est un peu la vision apocalyptique, mais c'est tout mécanisé à partir d'une tour de contrôle et on n'a plus de personnes qui connaissent le métier.
Ma dernière question, puis on écoute Amandine, c'était aussi toi qui es ce qu'on appelle, je crois, c'est nimaculteur, c'est une expression non issue du monde agricole. Comment tu sens ta connexion aussi avec l'agriculture dite plus conventionnelle? Parce qu'en fait, c'est aussi un des intérêts, je pense, de Lougui, c'est d'arriver dans l'expo à montrer la diversité des modèles agricoles, les héritages des modèles agricoles. Je trouvais hyper important que tu rappelles aussi qu'en fait, en Wallonie, la tendance, c'est pas 300 hectares, mais c'est, voilà, on est quand même sur des terres, des fermes qui restent à taille humaine, on dit généralement ça. Et comment toi, tu vois ton rôle, je dirais, de parfois étiqueter, et c'est vrai que c'est pas qu'une mode, il y a un vrai mouvement depuis 10 ans de nouvelles personnes qui se mettent à cultiver la terre, qui s'appellent plus paysans d'ailleurs ou paysannes qu'agriculteurs agricultrices. Voilà, comment tu sens les liens, les solidarités existantes ou non existantes dans la diversité du monde agricole, parce qu'on dit souvent les agriculteurs, mais il y a plein de gens différents aussi, c'est normal, c'est comme dans la société, quoi. Un petit mot là-dessus, puis on écoute Amandine.
Oui, mais c'est une bonne question. Je suis toujours très heureux de rencontrer des agriculteurs du coin, parce que je ne les connais pas du tout tous. Moi, je connais plutôt les maraîchers, les maraîchères du coin. C'est toujours riche d'échanger avec les générations. Pour moi, on a chacun à prendre de nos expériences, je pense. Et voilà, si ça reste dans la bienveillance, mais non, c'est comme partout dans la société aussi. Mais il y a des gens qui sont juste là pour s'accaparer de la terre et se faire le max de thunes possible et qui ne coopèrent pas. Mais moi, mon grand-père qui est agriculteur ne m'a pas transmis ça. Il m'a transmis une agriculture de partage où les agriculteurs essaient de s'entraider, etc. Donc je pense que je suis toujours contente. Bon, on n'a pas toujours le temps de les rencontrer parce qu'ils sont fort pris. Ils ne sont pas toujours dans les événements auxquels je vais. Moi, j'essaie de garder beaucoup de temps pour aller dans l'associatif, pour être en dehors du champ, accueillir des gens sur le champ aussi, c'est très important. Mais j'ai du respect de toute façon, parce qu'on est tellement peu qu'il faut, il faut maintenir ce métier, redorer son blason et montrer que l'agriculture peut être faite autrement, moins pénible, avec plus de respect, plus d'ouverture sur l'extérieur, plus de temps pour soi et communiquer à l'extérieur, ce qui me semble vraiment important pour les enjeux de demain.
Merci. On a même des collègues du Luxembourg, parce qu'Adrien vient, lui, de la province de Luxembourg. Peut-être que tu pourras prendre la parole après. Amandine, je vais te laisser te présenter, mais ça fait lien peut-être aussi avec... on passe des enjeux globaux. Henri qui a partagé son expérience familiale et actuelle sur les Hossards. Toi qui abordes plutôt l'enjeu d'une série de personnes qui aujourd'hui essayent d'avoir un outil de production, peut-être sur des plus petites surfaces avec d'autres modèles agricoles. Et puis je dirais l'associatif slash le milieu militant qui en fait s'implique à différentes échelles pour tenter de mettre le doigt, d'alerter sur cette disparition des terres agricoles, cette confiscation de l'outil premier de production. Est-ce que tu peux te présenter à travers quel réseau tu le fais, Amandine, avec qui? Et qu'est-ce que ça produit aussi comme effet réel sur ce combat-là pour garder les terres et en faire des terres cultivables?
Oui, moi je m'appelle Amandine et je pense que ici sur le petit prospectus de la soirée, je me présente comme membre de Occupons le terrain Liège. Donc on a déjà parlé de ce réseau-là tantôt. Et Occupons le terrain, du coup, c'est un réseau qui regroupe plein de collectifs sur des luttes de territoire. Et autour de Liège, on est une vingtaine de collectifs qui luttent ou luttions avant un peu chacun dans notre coin, comme MH le disait tantôt. Et l'objectif de Occupons le terrain, c'est d'essayer de faire en sorte de prendre un peu de hauteur, d'analyser quelles sont à chaque fois les mêmes logiques et de justement pouvoir agir à un niveau un peu plus structurel pour faire en sorte qu'on ne doive plus défendre des terres chacun dans notre coin. Mais c'est difficile de prendre le temps pour faire ça parce qu'on est tous tellement occupés sur nos luttes respectives que c'est parfois dur de pouvoir justement prendre de la hauteur et regarder un peu comment on pourrait faire réseau, quoi. Et Jean, il le fait magnifiquement bien. voilà, ça c'est pour Occupons le terrain. Et comment est-ce que je suis rentrée dans Occupons le terrain? C'est via Stop Alibaba & Co, qui est un collectif qui lutte contre l'extension de l'aéroport de Liège. Et je suis aussi employée chez Autre Terre. Et donc via Autre Terre, je me retrouve aussi dans le réseau de soutien à l'agriculture paysanne, donc le RESAP, avec Seb, avec MH, etc. Voilà pour mon introduction. Oui, tu avais une question?
Oui, enfin, d'où vient et qu'est-ce que ça produit le fait qu'il y ait, et c'est souvent plutôt une nouvelle génération, je dirais, de personnes qui décident à passer à l'action plus directe même. Quel effet ça produit et aussi quelle connexion finalement on arrive à faire dans ces combats-là avec les premiers concernés, que ce soit les riverains ici à la Chartreuse qui étaient concernés par cet aménagement immobilier, que ce soit les agriculteurs qui sont concernés peut-être encore par l'extension de l'aéroport ou qui ont déjà vu leurs terres détruites. Comment ça se joue, quoi?
Par rapport au milieu agricole, les connexions avec le milieu agricole, dans Occupons le terrain à Liège, on n'a pas beaucoup de collectifs qui défendent des terres agricoles. Sur une vingtaine, je pense qu'il y en a trois qui défendent des terres agricoles. Donc il y a le collectif Nalvo, il y a le Riponnet et il y a Stop Alibaba & Co. Et la plupart des autres collectifs, ils s'opposent à des projets plutôt de logement aussi et sur des espaces verts. Et du coup, moi, je vais plus vous parler de défendre des terres agricoles contre un projet de zoning. Mais ce n'est pas tout ce qu'Occupons le terrain fait, et la plupart, ils ne font pas ça. Ta question... Oui, comment est-ce qu'on fait des liens? Donc la ZAD, quels sont nos moyens? La ZAD de la Chartreuse, c'était vraiment une dynamique chouette qui a eu lieu l'année passée. Et en fait, on a réussi vraiment à gagner cette lutte. Donc en tout cas, les terrains qui étaient possédés par Matexi sur la Chartreuse, donc c'était pour du logement. Et donc cette lutte est gagnée. Par contre, il y a encore le fort de la Chartreuse où il y a d'autres projets. Et donc il y a les riverains qui sont en veille et les anciens zadistes aussi qui sont en veille par rapport à ça. Et donc cette lutte, elle a été gagnée parce que justement, il y avait un réseau dingue autour de ça. Donc il y avait un maire de Chartreuse qui luttait depuis plus de 5 ans, je pense, là-dessus, qui avait fait des recours juridiques, etc. Donc il y a eu plein de moyens d'action qui se sont mélangés, en plus de la diversité des personnes qu'on pouvait voir s'associer pour lutter contre ce projet de Matexi. Et donc après, il y a eu la ZAD. Et donc là, c'est vraiment plus des jeunes de différents horizons qui sont venus et qui ont concrètement occupé le terrain en disant « Matexi doit venir lundi, il ne pourra pas venir, on rase les arbres, on va occuper le terrain ». Et donc c'est vraiment, je pense, tout le réseau de différentes personnes associées et les différentes stratégies et moyens d'action qui ont fait que tout combiné, on a réussi à défendre la Chartreuse.
Et quand tu entends le témoignage de Henri, de François, qu'est-ce qui te percute en termes de traits communs, je dirais, de points communs? Finalement, les logiques qui se mettent en œuvre, que ce soit ici à Liège sur la Chartreuse, du côté des Hossards ou à d'autres endroits, En quoi est-ce que ça fait résonance avec les combats que ce soit des collectifs d'occupants de terrain ou que ici vous avez mené sur la Chartreuse par exemple vis-à-vis des promoteurs, vis-à-vis de comment est-ce que vous arrivez ou pas, comment est-ce qu'on arrive à créer du rapport de force, l'importance de la solidarité citoyenne qu'évoquait Henri.
Mais ça.
Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est en claquant des doigts? Est-ce que
non, évidemment que non.
On réagit le politique aussi. Quelle a été de manière? Il a fait ah super la Chartreuse. Enfin.
Mais non, en fait, déjà il y a tout. Ça prend énormément de temps et souvent aussi c'est des choses où on a besoin de dossiers auxquels on n'a pas accès, il y a des manques de transparence, ça va hyper vite, les panneaux jaunes qu'on voit, les études d'incidence, etc., on a 15 jours et on est là, on n'arrive pas à réagir, on n'arrive pas à mobiliser, tout est fait en fait pour que les projets soient acceptés le plus vite possible et qu'il n'y ait pas de résistance de la population. Et du coup, là, c'est vraiment...
Henri a l'air super d'accord.
Mais il faut vraiment se former. Et nous, avec Stop Alibaba, c'est, je pense, la quatrième enquête à laquelle on réagit. Du coup, maintenant, on a notre outil en ligne et on sait qu'il faut se dépêcher. Et puis, quoi, on a encore un peu de temps pour mobiliser. Mais c'est vraiment... Il faut se former, savoir aussi où aller chercher les documents, avoir des personnes qui prennent le temps de lire les pages et les pages et les pages de trucs et qui veulent bien se taper ce travail-là. Toutes les personnes pour communiquer par après... C'est un travail titanesque. Et pour le rapport de force, là, moi, je parlais pour l'aéroport de Liège. C'est un peu David contre le Goliath. Enfin, c'est toute leur stratégie de redressement de l'économie wallonne après la fin de la métallurgie. Ils veulent recréer tous les emplois dans l'aéroport. Et là, c'est aussi un bon exemple des terres agricoles. Comment est-ce qu'on les gère en fait... Avant, à Chertal, etc., tout le bassin industriel, c'était des agriculteurs. Et ils ont été expropriés pour mettre ArcelorMittal, Cochry, les compagnies. Après, on a fait confiance à qui ? À des entreprises privées et des gens hyper riches qui avaient pas du tout. Enfin, qu'eux, ils voulaient juste faire du profit, ils voulaient pas vraiment créer de l'emploi. Et tous les pouvoirs publics ont soutenu à fond ces entreprises privées. Pourquoi ? Pour qu'au final, ils délocalisent ailleurs, que tout le monde se retrouve au chômage. Et après, les terres, elles étaient là et elles étaient complètement polluées. On ne pouvait plus les utiliser. Et c'est devenu une friche qu'on n'utilise toujours pas. Et après, ils ne changent pas de stratégie. Les pouvoirs publics, qu'est-ce qu'ils font ? Ils investissent à Bierzet, ils exproprient des agriculteurs. Donc à Bierzet, on parle de... 280 hectares, je pense, le collectif Demain, qui risque encore d'être aménagé, alors qu'il y en a déjà toute une flopée. Donc c'est vraiment énorme. Et là, le plan de secteur, il a changé en 2003, donc on arrive trop tard. Et on n'a pas réussi, du coup, à faire les liens avant avec les agriculteurs. Là, avec justement la victoire à la Chartreuse, on se dit, en fait, peut-être qu'il faudrait qu'on s'intéresse au terrain avec Stop Alibaba. Nous, ça fait 3 ans qu'on milite sur d'autres enjeux. Et là, on s'est dit, OK, on va aller voir justement ce qui se passe. On va essayer d'amener des gens sur la zone, de refaire un peu du lien avec vraiment le territoire. Mais en fait, on n'a pas l'habitude d'entrer en lien, ça prend du temps. Les agriculteurs sur place, ils n'ont pas spécialement le temps non plus. Nous, de pouvoir prendre le temps d'aller leur parler, d'essayer de créer du lien, etc., ça prend aussi du temps. Donc on espère que... moi, je n'ai pas d'illusion, mais je pense que les pouvoirs publics, ils n'ont juste pas du tout changé de stratégie. Ils vont encore niquer une quantité incroyable de terres agricoles pour des entreprises privées qui ne vont pas réussir à créer l'emploi qu'on veut, quoi.
Merci. Et donc, je note bien que la question du temps, qu'on soit agriculteur ou activiste débordé, elle est centrale. Et peut-être que l'expérience des Hossards, qui est quand même une expérience de régionale, pourrait aussi être intéressante à montrer, peut-être sur Bierzet. C'est une idée comme ça, mais de dire, on s'est déjà pris la tête là-dessus à un autre endroit. Donc, et c'est vrai qu'une partie des terres sont déjà à la... On va pas rentrer dans le débat technique de Bierzet ici, mais c'est vrai qu'une partie des terres sont plus aux agriculteurs. Et j'imagine que le chiffre que tu cites de 180, il y a sans doute des terres qui sont à la SOER, déjà quoi.
Mais il y a des terres qui appartiennent à la SOER, mais qui sont toujours cultivées par les agriculteurs. Moi, je pars du principe que tant que les terres, elles n'ont pas été artificialisées, même si elles sont déjà sur les plans de secteur, il faut continuer à se battre pour les sauver, quoi.
Merci, je vais clôturer cette première partie. Merci pour vos interventions. L'idée, ça va être de creuser ça à travers des tables thématiques avec des thèmes qui nous ont été proposés par nos amis Lougi.
Voici maintenant le retour des tables rondes.
En fait, sur les 8 groupes, il y a eu 4 tables, plus un groupe pirate, mais qui a toute sa légitimité. Donc il y a 5 restitutions à faire. Et donc là, l'idée, je dirais, c'est de ne pas Je vais demander aux personnes qui vont prendre la parole de ne pas être exhaustives, de dire tout ce qui s'est dit. C'est vraiment pas intéressant. Souvent, ce genre de moment, c'est même, pardon l'expression, chiant, si en fait on dit tout ce qui s'est dit. Non, peut-être, ce que je vous inviterai à faire, c'est soit si le groupe s'est mis d'accord sur les deux, trois trucs importants à dire, de le dire, mais de ne pas hésiter aussi à dire avec quoi vous repartez comme idée forte de la discussion, quoi. Peut-être le sujet qui a fait le plus débat, discussion entre vous, qui est ressorti naturellement, quoi. Voilà, donc soit c'est moi qui fais comme ça, soit le premier groupe, la première personne qui se sent prend la parole. Et on ne va pas rebondir, hein. C'est, voilà.
Après un tour
Il y a un dernier tour de clôture.
Un dernier tour de clôture, chacun. Et puis à 10h30, du coup, on termine. Et puis on peut prendre un verre et pas côté.
Je ne fais que suivre les consignes de Lou Guy. Hein.
19h30, tout à fait.
Donc on y va, allez.
Voilà, je répète, pour la prise de son, la distance idéale, c'est celle-là. Donc évitez de parler comme ça ou comme ça ou comme ça. Merci beaucoup.
Voilà, donc concis, parce que l'idée, c'est atterrir, c'est pas c'est relancer discussion, mais plutôt pour l'informel ou pour chez vous, quoi. Allez, le groupe pirate. Et vous nommerez que la porte-parole du groupe pirate est une parlementaire.
Donc, Véronique Akrimasko, hein. Moi, ça fait plus de 30 ans que je défends la non-bétonisation. Je suis ingénieur civil architecte de formation et je suis contre la construction neuve de base parce que je pense qu'il faut préserver les terres et surtout les terres agricoles. Et maintenant, je suis députée wallonne et je préside la commission de l'agriculture, de l'aménagement du territoire et de l'économie. Et donc, monsieur est venu en commission du Parlement wallon pour défendre la non-transformation en zone d'activité économique des terres agricoles à Wallerron-de-Lange. Et donc, on a discuté, nous, dans le groupe pirate, de ça et de très concrètement ce que ça représentait. Si je dois faire un résumé de deux choses, c'est que la politique de développement de zoning wallonne depuis les années 80, qui consiste à mettre les entreprises à l'extérieur sur des zonings, etc., est un échec, de mon point de vue, mais ce n'est pas du tout admis politiquement parlant. Donc je leur disais, évidemment, recevoir quelqu'un comme monsieur agriculteur qui vient démontrer à quel point c'est une ineptie d'aller bétonner ces terres-là pour refaire un zoning alors que les autres sont vides en province du Luxembourg et qu'en plus de ça, ils ne sont pas vides, mais en tout cas, ils ne sont pas assez rentables et pas assez optimalisés et qu'en plus de ça, même quand ils sont optimalisés, ils créent une plus-value qui est moindre que ces entreprises-là qui sont dans le tissu. Parce que vous savez tous comme moi, qu'en fait, on met sur les zonings pas des industries polluantes, hein, on met des bureaux, de la logistique, enfin, tous des trucs qui pourraient aller complètement ailleurs et qui fonctionnent mieux économiquement ailleurs. Donc ça, c'était notre première conclusion. Et la deuxième, et c'était pour rebondir sur ce que tu disais, on a déjà plein de terres qui sont cultivées aujourd'hui, mais qui sont constructibles au plan de secteur. Et donc ça, c'est un enjeu, c'est les 55 000 hectares de terres qui sont là, et c'est un enjeu mais majeur, parce qu'elles sont aujourd'hui des terres nourricières et qu'elles peuvent demain être construites. Enfin, elles ne peuvent pas demain être construites, mais beaucoup considèrent que le fait qu'elles soient rouges au plan de secteur donne, en tout cas, ça leur donne plus une voie à être constructibles. Elles peuvent ne pas l'être, ce n'est pas parce que vous êtes rouge que vous avez un permis. Hein. Normalement, il y a toute une série de conditions qui doivent être remplies. Mais néanmoins, elles sont à protéger parce qu'elles sont directement menacées. De protéger celles-là, c'est... Il faut le faire directement. Et moi, ce que je trouve absurde, c'est que là, progressivement, la Wallonie commence quand même à se dire, même si le premier truc que j'avais envie de dire, c'est j'espère que votre soutien est... Enfin, dans ce qu'on a commencé à dire sur le sujet, en fait, c'est très, très isolé comme débat aujourd'hui. La majorité du politique n'est pas d'accord avec ça. Qu'on soit bien d'accord. Hein. C'est parce qu'on s'est rencontrés, etc. Mais je me sens vraiment isolée. Donc, c'est...
Tu veux dire que le débat est inexistant ou presque ? Alors, ta position sur le débat est une position isolée.
Ma position sur le débat est une position isolée. Le deuxième point par rapport à ça, c'est de dire que ces zones-là, il faut les protéger, vraiment directement, parce qu'elles sont potentiellement constructibles. Mais alors, si en plus de ça, et ça, le politique dit, OK, d'accord, puisqu'en 2050, c'est la fin de l'artificialisation, c'est l'Europe qui a donné l'objectif, OK. On peut imaginer. Mais alors, si on commence en plus à rendre constructibles des zones qui ne l'étaient pas, c'est-à-dire créer des zonings, c'est le serpent qui se mord la queue. On n'en finira jamais. Donc moi, je peux me battre des milliards d'années à préserver de la terre qui est déjà passée rouge au plan de secteur pour qu'on ne l'urbanise pas si on continue à dire on refait passer de la zone au plan de secteur en rouge. Je veux dire, moi, ça m'a déprimé, soit. Mais voilà.
Donc c'est ta conclusion, ça t'a déprimé.
C'est ma conclusion, c'est vraiment de se dire il faut se battre, et tu le disais aussi pour Liège Airport et le changement de plan de secteur en 2003. tout changement de plan de secteur, il faut se battre, mais jusqu'à la dernière goutte, quoi, parce que c'est là que ça se passe. Et après, réinverser la tendance, c'est dur. Même si, et comme tu le disais aussi, il faut la protéger, même si elle est constructible. Ce n'est pas parce qu'elle est constructible qu'il y aura un permis. Il y a toujours moyen qu'il n'y ait pas de permis.
Merci. Je ne laisse pas la possibilité aux autres membres du groupe de rebondir, sinon ça va être... Mais voilà, à un autre groupe de rebondir. C'est ça. Merci. Vas-y, Lou.
Notre bateau était un peu parallèle au vôtre, je crois. On a eu plus ou moins le même genre de conversation. Donc nous, c'était le groupe expropriation et bétonisation des terres. Et donc on a en fait surtout dit qu'effectivement, il faudrait qu'il y ait juste un pouvoir politique fort qui protège le plan de secteur et qui mette les terres qui sont utilisées en agriculture mais qui ne sont pas au plan de secteur agricole, qu'elles deviennent agricoles et que toutes les terres agricoles, ben, qu'il y ait un mécanisme, juste une simple loi, qui les fige en terres agricoles parce qu'en fait sinon elles vont juste s'amenuiser au fur et à mesure. Mais le constat, c'était que ce pouvoir politique fort n'existe pas pour l'instant. Donc ce qu'il faut faire, c'est se mobiliser, aller sur le terrain, etc. Ce qui est surtout ressorti, c'est le besoin d'avoir une connexion entre ces lieux de lutte et ces agriculteurs et les gens qui ont envie de s'engager mais qui ne savent pas comment, parce qu'en fait, il y a beaucoup de luttes où personne n'est au courant. Il y a des agriculteurs qui sont très isolés et qui se retrouvent à se faire exproprier, mais en fait, on le sait pas. Et donc... On n'a pas trouvé la solution là ce soir, mais faire enfin, que ce soit une plateforme ou peu importe, comme Occupons le terrain, mais quelque chose qui soit facile d'accès et d'utilisation pour des personnes qui sont sensibles à cette cause, mais qui ne sont pas agriculteurs ou politiciens, ou politiciennes ou agricultrices. Et donc mettre en connexion en fait, les luttes et les personnes motivées à agir, quoi.
Ça permet de faire un pont avec la table conflit.
Alors l'intitulé, c'était les conflits présents et à venir. On a déjà dégagé ce à venir, on s'est concentré sur les présents et on a repris que les trois qu'Amandine avait donnés, c'est-à-dire ceux qui sont en lien direct avec les terres agricoles. Je ne vais pas présenter tous les trucs en détail, mais juste donner deux, trois points de signalisation parce que c'est trois situations très différentes. Donc il y a la plus simple qui est... En ville, littéralement près du cœur de la ville, il y a le collectif Nalvo, c'est les rues Nagno et Molinvo, ils ont mélangé la lettre, ils ont inventé un autre nom, qui est sur les hauteurs de Liège. C'est un terrain qui est un terrain de maraîchage depuis quasiment un siècle. Les propriétaires vieillissants ont décidé, comme c'est en zone constructible, de s'arranger ou de s'acoquiner avec un promoteur immobilier. Le premier projet de construction a été bloqué, on attend un éventuel deuxième. Mais ce qui est frappant dans ce coin-là, c'est la localisation. C'est à peu près à 2 km en contrebas du nouveau centre hospitalier chrétien Mont-Légia. Et on se rend compte que tous les terrains qui étaient des terrains agricoles ou des prairies en contrebas de cet hôpital sont petit à petit bouffés par les projets immobiliers et que si on laisse faire, la jonction va se faire complètement avec la partie densément bâtie de Liège. Donc c'est un enjeu à la fois de sauver des terres de maraîchage qui servent à nourrir la population et puis c'est en même temps un enjeu d'éviter une bétonisation complète d'un flanc de colline avec tout ce que ça implique comme accès aux espaces verts, à la nature, à l'alimentation. Donc ça, c'est un cas. L'autre cas qui est juste un peu plus éloigné du centre, c'est le célèbre cas du Riponnet ici à Liège. Donc un espace de 400 hectares qu'on défend et qui est composé essentiellement d'espaces verts, de terres agricoles, un tiers de l'espace c'est des terres agricoles, des bois et des choses comme ça. Donc là, on a réussi à bien avancer en 6 ans, on a bloqué des projets, on a convaincu les communes de l'intérêt. On vient d'avoir un rapport réalisé par un bureau d'études mandaté par les communes qui explique que l'avenir du site, ça doit être un avenir sans urbanisation et un avenir agricole, parce que c'est important pour l'alimentation et parce que c'est ça qui structure les paysages de flancs de vallée de la Vestre. Donc c'est super bon, mais en même temps, on sait, il y a 4 agriculteurs sur le site et il y en a 3 des 4 grâce à un rachat récent, mais il y a 3 des 4 qui sont quasiment à l'âge de la pension. Et donc on dit avenir agricole important, mais point d'interrogation, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont décider de prendre leur retraite? Et puis le troisième cas, il a été présenté plus en détail, c'est un peu plus loin, c'est 10 km du centre de Liège, mais c'est à l'aéroport évidemment, avec tous les problèmes que ça implique. Et juste pour situer le dernier problème en date, qui est la construction par la société Wertz, enfin le projet de construction par la société Wertz de nouveaux hangars de stockage. C'est un projet colossal, donc c'est une société belge, c'est même pas Alibaba ou Amazon, mais eux, ils vont redistribuer les produits qui arrivent par avion. Et pour faire ça, ils ont besoin d'un hangar qui est à peu près 10 fois plus grand que celui prévu pour Alibaba. Ils prévoient 345 quais pour les camions, pour charger et décharger les camions. Et c'est un terrain énorme, c'est un terrain agricole pour le moment. Et on n'imagine pas nécessairement ce que ça peut être la logistique qu'il y a autour d'un aéroport et les conséquences que ça peut avoir. Mais rien que ce cas-là, c'est colossal et c'est vraiment important de réaliser ce qui est en jeu.
Et selon la table, le résultat du conflit, ça va être quoi?
On gagnera. On ne sait pas quand et comment, mais on gagnera. Donc en fait, toutes les logiques qu'on a vues depuis la plus petite, le maraîchage en ville jusqu'à l'aéroport, c'est en fait une logique d'appropriation des sols pour des raisons commerciales et financières. C'est la logique même du capitalisme qui est en cause en matière d'aménagement du territoire. Et même si on ne le sort pas tout en haut sur l'étendard, comme François qui disait qu'il n'était pas pour un communisme pur et dur, mais dans le fond, pour appeler les choses par leur nom, c'est effectivement la logique d'un système qui se développe et qu'on essaye de bloquer, ce qui implique de penser à autre chose que ce système-là comme avenir.
En conclusion, vous êtes anticapitaliste, c'est super. Il restait deux tables.
Les terres publiques, on les garde, les CPS, les communes, les familles d'église, gardez bien vos terres. Si Albert Frère et Colruyt investissent dedans, c'est qu'il y a vraiment un intérêt pour le futur. Donc il faut bétonner ça, il faut, c'est une façon de le dire. Bétonner le fait de garder les terres publiques, voilà. Bétonner. Et le bail à ferme, on en a un peu discuté, il y a quelques modifications. Mais ça évolue, mais voilà, mais il doit encore évoluer le bail à ferme, mais trouver une petite tête qui sécurise à la fois le travail des agriculteurs, mais qui n'enferme pas le propriétaire non plus dans un truc où il n'a plus le contrôle du tout. Et je pense que c'est en cours, lentement.
Voilà. Tu veux compléter ou pas, Henri?
Non, on est très synthétique dans le groupe.
Vas-y, mais très court, parce que j'essaie de respecter le timing.
Oui, mais c'est juste... Mais c'est, je suis là aussi pour partager l'info à laquelle j'ai accès. Aux Assises de la Terre, donc, qui a été organisée par Boursu pendant les 3 jours, il y a eu un gros volet hectares publics, etc. Et où il y a des perspectives qui sont entre la SAFER et... tu vois, c'est pas vraiment de la réquisition et encore moins de l'achat, parce que la région wallonne n'a pas les moyens. Mais plutôt avec du droit de préemption, etc. Donc, si vous voulez, c'est en ligne en plus, les conclusions de ça. Donc, c'est vraiment intéressant par rapport à ça. Et c'est vrai que c'est déjà un paquet d'hectares aussi à récupérer.
On le met dans la gêne. Vas-y.
Nous, les agriculteurs, dans aux Assises de la Terre, donc la Fédération wallonne de l'agriculture a fait des propositions. Et ce qui est important, c'est les critères d'attribution de ces terres. Et donc là, on rejoint absolument. Il faut absolument éliminer, Boursu est d'accord avec ça aussi, toutes les sociétés de gestion qui engagent, par exemple, les propriétaires à reprendre leurs terres et les mettre à disposition des sociétés de gestion. Donc ça, on veut les éliminer, y compris des aides européennes. Hein. Et alors, la conclusion de notre table aussi, c'est qu'on n'est pas contre, évidemment, que les pouvoirs publics qui sont propriétaires de terres reprennent leurs terres et les attribuent à des gens qui veulent faire du maraîchage. Ceci dit, il faut que ça soit des projets sérieux aussi, parce que tout à coup, quand vous donnez quelque chose à quelqu'un, il y a tout le monde qui arrive, et je veux ma part, et puis après, il faut tenir sur la distance. Hein. Il l'a dit, c'est comment ton prénom ? François l'a dit tout à l'heure, c'est un métier très dur, hein, et qui est mal rémunéré aujourd'hui. Hein.
Mais effectivement, pour la mise à disposition et le fait de pouvoir garder cette terre publique, CPS, etc., fabrique d'église, Marc Thirion, je trouve que c'est le dossier qui est le plus avancé en région wallonne par rapport à l'accessibilité aux fonciers agricoles. Mais il faudrait re-regarder ça, et vous avez certainement un avis, et c'est important de le challenger, d'envoyer aussi des mails à Boursu, etc., ou à la fois en disant quel est votre avis sur la question, quoi.
Mais pour rebondir sur le truc des Assises de la Terre que tu expliquais, c'est effectivement en tout cas l'espace d'opportunité le plus gros qu'on a vu ouvert, c'est celui sur les terres publiques, de dire bah, tiens, on va pouvoir les gérer de manière centralisée, commencer à réfléchir à comment est-ce qu'on les utilise. Mais il y a très peu de choses qui ont été dites par contre sur la question de l'usage nourricier de ces terres et en fait du coup qu'est-ce qu'on fait sur les terres publiques et comment on fait pour que les terres publiques soient utilisées pour nourrir la population. Parce qu'en fait, et même de manière générale dans les Assises, en fait on n'a pas du tout parlé de l'aspect nourricier des terres. On a parlé de l'aménagement du territoire, on a parlé de toute une série de choses, mais on ne s'est pas dit en fait si on veut que nos terres agricoles elles servent à nourrir la population, qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit le faire et qu'est-ce qu'on doit mettre en place dans une politique foncière qui serait normalement développée par le gouvernement wallon. Ben, est-ce qu'on va parler de nourriciers ou est-ce que finalement on va laisser ça de côté et qu'on fera des chevaux par exemple, voilà, on va faire des chevaux.
Alors, dernière table sur la hausse du prix des terres agricoles.
Donc voilà, donc Emmanuel Allard, donc je fais partie du MAP, et donc j'ai posé les questions de ce papier et indiqué nos analyses pour voir si les deux personnes qui faisaient partie de notre groupe pensaient que c'était des bonnes analyses. La question de quels sont les problèmes d'accès à la terre et de concentration des terres et des prix. Donc en effet, apparemment dans le monde agricole, et les gens qui étaient autour de moi étaient d'accord pour dire que le problème, c'est que non seulement le prix des terres évolue tellement fort que les jeunes qui ne sont pas issus du milieu agricole ne peuvent pas acheter, et même la transmission des fermes est plus compliquée. Pourquoi ? Parce que quand on a une personne sur les 5 enfants qui doivent reprendre la ferme, à ce moment-là, le prix de rétribution aux autres est plus important, même s'il y a des abattements fiscaux lors des successions. Donc le prix des terres aussi pose un autre problème, c'est que de plus en plus, qui peut acheter la terre ? Ce sont des groupes immobiliers, fonciers, de spéculation et autres. Donc on arrive à une financiarisation de l'agriculture avec une disparition de la paysannerie et notamment des grosses fermes qui n'arriveront pas sans doute à être transmises à leurs enfants sans financiarisation externe par des banques, des groupes, etc., dont Boursu a parlé d'ailleurs aux assises. Donc la question de savoir est-ce qu'il faut réguler ou pas les prix des terres, on dit oui en effet, mais comment ? Et surtout, à quel objectif ? Et donc au comment, on n'était pas d'accord, de tout, au pourquoi, oui. Alors, le grand blocage, c'est de dire le monde paysan a sans doute peur que le prix des terres devienne moins cher, puisque, quelque part, c'est un revenu complémentaire à la pension de pouvoir revendre de la terre agricole. Donc, ce blocage est important aussi. En tout cas, ça m'a été dit dans le groupe. Maintenant, par rapport aux activités, le groupe a pensé qu'en effet, nous sommes en faveur d'une mise en place d'un organisme de régulation du foncier agricole en région wallonne, qui réglerait non seulement la transmission de terres, donc qui pourrait bloquer la cession de terres agricoles, bloquer pour une raison de candidat ou de prix, mais la réponse a été, ça peut être intéressant, et même, je dirais, pour rassurer les paysans, on a dit oui, mais il y aurait un blocage uniquement de concentration. Si, par exemple, on arrive à plus d'une fois et demie la superficie agricole d'une ferme moyenne, donc si un agriculteur a déjà 100 hectares, on va peut-être favoriser, par un processus de candidature, important pour les terres publiques aussi, une personne qui est un jeune maraîcher ou une ferme collective qui a un projet. Et alors, oui. Donc, en effet, le processus de candidature est important. C'est pas uniquement donner à l'administration le fait d'avoir un pouvoir de préemption, puisque par qui ce sera fait et dans quel cadre. On a bien vu, parfois, la préemption n'est pas faite à bon escient. Donc, c'est vraiment avoir tout un processus de réflexion sur blocage de terre, rétrocession de terre, un peu comme ce qui se fait en France. Donc, le groupe qui a participé à ça pensait que c'était bien, mais le problème, c'est comment traduire ces bonnes intentions dans le cadre législatif et politique. Et là, j'ai trouvé que le groupe a été fantastique en disant, d'accord, vous avez 10 objectifs, et en effet, c'est comme les affaires en France, il y a 10 objectifs pour lesquels il y a des régulations possibles, mais il faut déjà qu'on soit d'accord, le maximum d'organisations paysannes, de syndicats paysannes, mais aussi d'ONG et d'organismes, soient d'accord déjà sur ces principes. Et ces principes, on les retrouve ici dans ces assemblées, et si on est d'accord sur ces principes, c'est alors à ce moment-là, société civile doit faire pression sur tout le politique, c'est un peu l'idée qui ressort du groupe, hein. C'est pas les miennes, mais je pense que ça m'a appris beaucoup, c'est à ce moment-là, le politique à prendre ses responsabilités et à faire des propositions de loi, parce que nous ne pouvons pas porter les lois, nous ne sommes que des organismes de pression, et c'est au politique à ce moment-là de suivre législativement. Et c'est
magnifique. Bah, en fait, je propose juste qu'on s'applaudisse pour ces échanges. Avant de faire l'agenda, Lougui, vous tenez à ce qu'on fasse un tour de clôture, mais il faut respecter l'heure des personnes aussi et les 1h30 passées. Et donc, je ne le ferai pas de manière forcée, mais je dirais que si l'une ou l'autre personne veut dire peut-être un mot sur ce avec quoi il ou elle repart et ce qu'il va faire, en quoi est-ce que ces discussions ont changé ou va modifier sa perception ou son agenda dans les 4 semaines à venir, ou va ajouter quelque chose à son agenda, de le partager vraiment en 20 secondes, mais de manière non obligatoire, quoi. Et peut-être en profiter pour celles et ceux qui veulent prendre la parole à ce moment-là pour donner une date, un agenda, je le dis parce que je sais qu'il y en a un, de le faire aussi maintenant, quoi. Et on terminera par ça. Donc des prises de parole de 20 secondes pour dire c'est quoi votre prochaine étape, votre prochain pas dans l'agenda des 4 semaines à venir suite à cette discussion, s'il y a un prochain pas. Et donc la parole est au centre, et puis je laisserai quand même Lougui clôturer pour nous dire je sais pas quoi, mais parce que c'est eux qui ont organisé, donc c'est pas moi. Je ne suis qu'à leur service. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de dire quelque chose ? Amandine.
Oui.
Moi, le truc principal, c'est le lien avec des agriculteurs à Liège, ce que moi, j'ai pas encore beaucoup rencontré dans Occupant le terrain, donc je suis hyper contente. Et le point agenda, c'est que cette année, la journée internationale des luttes paysannes aura lieu à l'aéroport de Liège et pendant le festival Nourrir Liège. Et donc là, il y a encore, justement, encore pas mal de liens à tisser pour essayer de construire un argumentaire autour de ça, d'entrer en contact avec les agriculteurs et d'essayer d'en faire à un moment, enfin, tirer l'opportunité pour vraiment faire un maximum de liens entre tous les agriculteurs qui perdent des terres, notamment à l'aéroport, et tous les mouvements militants qui veulent défendre ces terres.
Merci.
Vous étiez le 4 février 2023 à Liège avec Lougui, un duo d'artistes qui questionne le lieu entre l'art, le politique et le réel. Était invitée Marie-Hélène Lefebvre, chargée de mobilisation à Fianne Belgique, Amandine Lejeune, membre de Occupons le terrain à Liège, Henri Loest, agriculteur, exproprié de ses terres et membre du collectif contre l'extension du zoning des Haussards, François Sonnet, maraîcher à Jupy, membre de la ceinture alimentaire liégeoise. Le débat a été animé par Sébastien Kennes de Rencontre des continents.